Deutsche Welle, Économie et développement.
Comment les jeunes Burundais tentent-ils de survivre malgré la violente crise que traverse le pays depuis 2015? Une initiative a été lancée, le Fonds d'investissement de la jeunesse, qui peut par exemple leur permettre d'acheter un taxi et avoir ainsi des revenus. Et puis on parlera aussi des ambitions nucléaires de l'Ouganda. Kampala a signé un accord avec la Russie, pays qui s'est déjà engagé dans la construction de centrales au Nigeria et en Égypte. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, c'est Claire Marie Kostmann au micro, bienvenue.
Des milliers de jeunes Burundais baladés dans la rue après leurs études suite au manque d'emploi. Le Fonds d'investissement de la jeunesse s'étend pas vers la recherche des solutions aux problèmes de chômage qui minent majoritairement les jeunes, grande tranche de la population. Eric Singimana est le président de l'association pour une jeunesse africaine et progressiste. Il motive l'idée derrière la création du fonds.
On a pris la décision de mettre en place le FIJ, ce qu'on appelle le Fonds d'investissement de la jeunesse, après avoir vu que la jeunesse vit dans des conditions inacceptables, surtout qu'il y a des jeunes qui ont déjà terminé les études, et il y a aussi des jeunes qui ont des idées, il y a des jeunes qui ont des projets, mais qui n'ont pas de moyens pour commencer à mettre en application ou à mettre en valeur les idées ou la mise en pratique de leurs projets.
Les associés se chiffrent à 80 000 et chacun contribue 5 000 francs pour constituer le fonds. Depuis 5 mois, 25 millions sont déjà encaissés. Un projet éligible bénéficiera d'un financement crédit maximal de 12 millions remboursable après une année. La trésorière du FIJ, Sandrine Atangimana, assure en même temps l'octroi des financements. Elle en explique les modalités.
Notre objectif, c'est pour que les membres de l'association pour une jeunesse africaine soient regroupés dans différents groupes, faire de petits projets. Puis, à partir de ce fonds d'investissement, nous allons leur donner du fonds pour financer leurs projets. Afin, après, ils vont restituer le capital que nous leur avons donné et puis nous allons donner aux autres jeunes membres de l'organisation.
Des séances de formation sur l'élaboration de bons projets précèdent la sélection avant le financement. Eric Naïhérégé est un jeune étudiant qui attend le fonds pour réaliser son projet.
Moi, j'entends un très bon avenir parce qu'à partir de cette organisation, on nous a fait subir une séance de formation où j'ai retiré beaucoup de choses. On nous a fait apprendre comment faut changer de mentalité à partir de bons projets comme l'entrepreneuriat. Donc, on nous a montré que la jeunesse occupe une place plus importante. Je peux conclure que c'est une formation qui va changer notre avenir.
Jocelyne Nizomoza est sans emploi. Pleine de projets en tête, elle peine à les réaliser faute de fonds. Elle finalise son projet d'achat d'une voiture taxi à présenter pour la compétition afin de bénéficier du financement du Fonds d'investissement de la jeunesse. Être autonome et embaucher les autres chômeurs, c'est son rêve.
Cette voiture, lorsque je l'aurai, je peux engager un chauffeur et les moyens qu'il va recevoir peuvent lui aider à se satisfaire et à satisfaire aussi ses besoins, surtout les besoins fondamentaux, se vêtir, se nourrir. Et aussi, je peux utiliser ce taxi pour transporter ces cultures, c'est-à-dire la récolte de l'intérieur du pays vers Bujumbura.
Pour Capitoline Niyonguru, les jeunes disposent des talents et leur force reste le principal capital sur le marché du travail. Le FIJ vient mettre fin à l'inoccupation de la jeunesse, permettre la création d'emplois et l'autofinancement pour solutionner le chômage accru, renchérit Capitoline.
Il faut que les jeunes comprennent quelle est leur force et son capital premier. Avec ce projet, j'ai constaté que si tu es inoccupé, toute chose qui vient d'ici est la paix, te perturber. Les jeunes étaient inoccupés. On a organisé ce projet pour sensibiliser les jeunes, d'élaborer leurs propres projets. Au lieu de perdre leur temps dans des rigolades ou dans des choses bizarres, il faut qu'ils s'unissent pour travailler ensemble en faisant des projets. Ils vont se financer eux-mêmes. Il faut savoir vivre harmonieusement. sérieusement, préparer des projets ensemble, travailler dans une cohabitation mutuelle, se faire des entraides mutuelles entre eux.
Sur une population de plus de 10 millions d'habitants, les jeunes de 15 à 24 ans représentent autour de 65% de la population totale et nombreux sont des chômeurs. L'autodépendance représente 52% de la population, dont les moins de 15 ans et les âgés de plus de 60 ans, selon les récentes enquêtes. En réalité, c'est Néla Gira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM.
Le nucléaire en Afrique a déjà une longue histoire. Le Centre régional de recherche nucléaire de Kinshasa est né en 1959. C'était alors le premier réacteur nucléaire d'Afrique subsaharienne. Selon la journaliste Colette Breckman, il fut remplacé par un autre d'une puissance d'un mégawatt en 72. Mais il ne fonctionne plus depuis 1994, faute de moyens. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui possède les deux seules centrales nucléaires du continent. Le pays souhaite relancé depuis 2010 son programme nucléaire civil afin de sortir de sa dépendance au charbon dans sa production d'électricité. Le pays veut se doter de 6 à 8 nouveaux réacteurs, sauf que de telles installations coûtent très cher, 70 milliards d'euros, ce qui a soulevé un tollé dans le pays. Plusieurs puissances sont à pied d'œuvre pour se tailler des marchés en Afrique. En 2015, l'Égypte avait officiellement annoncé que la Russie serait chargée de construire la première centrale du pays. D'une puissance de 1000 MW, cette future installation devrait coûter 4 milliards de dollars au gouvernement égyptien. La centrale devrait entrer en fonctionnement à l'horizon 2020-2025, soit à peu près en même temps que la première centrale nucléaire du Nigeria, également construite par les Russes. La Chine, elle, n'est pas en reste. L'Agence internationale de l'énergie atomique a chargé Pékin en 2014 d'assister le Ghana pour l'obtention d'uranium faiblement enrichi destiné à un réacteur de recherche. En 2025 doit être mise en service la première centrale chinoise sur le continent, au Kenya. Pékin y exploite déjà un gisement d'uranium considéré comme le carburant des réacteurs. L'Afrique, qui dispose de 20% des ressources mondiales en uranium, est vue comme un marché du futur. Selon l'AIEA, la capacité mondiale d'électricité d'origine nucléaire devrait augmenter de 60% d'ici 2040 et le continent sera de la partie. Direction maintenant l'Ouganda, un pays où des centrales hydroélectriques et thermiques fournissent du courant aux industries et aux habitants. Enfin ça, c'est sur le papier, car en réalité les entrepreneurs se plaignent, comme Nicolas Kato à la tête d'une minoterie.
Je dirige le moulin depuis 4 ans et notre plus gros problème ici est le tarif élevé de l'électricité. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie chaque jour, donc nous serions heureux d'avoir de l'énergie nucléaire. Sauf si nous la facture et au même montant, ce ne sera pas utile. Je ne connais pas grand-chose au sujet du nucléaire, mais j'ai entendu parler de ça dans les nouvelles et dans des pays comme l'Iran.
L'Ouganda doit faire face à plusieurs défis, la production mais aussi la distribution d'énergie. L'Ouganda a souffert d'une pénurie d'électricité lorsque la sécheresse a frappé le pays, abaissant le niveau du Nil. C'est pourquoi le gouvernement croit dans l'énergie nucléaire, présentée comme inépuisable et propre par ses défenseurs. Une énergie qui représente pourtant un énorme risque. Il suffit de se rappeler de la catastrophe de la centrale soviétique de Tchernobyl en 1986 ou de celle de Fukushima au Japon en 2011. En juin dernier, Kampala a signé un accord avec Rosatom, le groupe russe d'énergie nucléaire. Il y est question de coopération bilatérale pour le développement de l'infrastructure nucléaire en Ouganda, de programmes visant à sensibiliser le public à cette technologie et d'applications dans les secteurs industriels, médical et agricole. Le gouvernement ougandais devrait également s'associer à la Chine. C'est d'ailleurs là que s'est rendue Prisca Bonabantou, sous-secrétaire au ministère de l'Énergie. Elle y est allée pour visiter des installations nucléaires et elle est convaincue par l'atome. Le potentiel de production des sources renouvelables locales en utilisant les technologies existantes ne sera pas capable de répondre aux besoins énergétiques futurs. Par conséquent, pour assurer un approvisionnement fiable en électricité pour l'industrialisation et l'élimination de la pauvreté, mon pays continuera à développer toutes les ressources énergétiques disponibles, y compris l'énergie nucléaire, selon les prescriptions de l'AIEA. Mais des voix s'élèvent pour contester ces choix qui engagent à très long terme. En effet, le nucléaire est une source d'énergie chère au vu des installations nécessaires. Elle peut aussi être très dangereuse en cas d'incident, mort suite aux radiations, malformations et handicap d'enfants nés, par exemple, après la catastrophe de Tchernobyl, ou encore contamination des sols et des animaux. Sans oublier la question des déchets. Malgré le retraitement, les déchets ultimes doivent être enfouis sans que l'on connaissent bien les risques dans le futur. Harold Asema est un ancien diplomate ougandais. Il est notamment l'auteur d'une tribune intitulée « L'Ouganda a-t-il désespérément besoin d'un réacteur nucléaire ?» et il est plutôt sûr de son avis.
Nous ne pouvons pas nous le permettre, c'est très cher. Deuxièmement, nous n'avons pas épuisé les autres solutions de rechange. Nous avons beaucoup de ressources pour l'électricité hydraulique, nous avons un soleil abondant pour l'énergie solaire, nous pouvons utiliser des biogaz. Les risques d'accidents sont énormes, nous n'avons pas besoin d'énergie nucléaire. Ce que veulent les Ougandais, c'est une meilleure santé, une éducation de qualité et plus d'investissement dans l'agriculture. Ce sont les trois secteurs qui touchent la vie des Ougandais ordinaires.
Reste que selon l'Atlas sur la production en énergie du continent africain, publié cette année par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Banque africaine de développement, près d'un tiers de la population n'aurait aucun accès à l'électricité et la moitié des Africains dépendraient de la biomasse, par exemple le bois, pour la cuisson et le chauffage. Selon cette enquête, l'Afrique aurait le niveau de consommation d'énergie par habitant le plus bas au monde. Merci à Alex Guita pour les sons. Et pour réécouter ce magazine économie et développement, allez sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.